D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Une pièce de Victor Hugo s'intitule « Le roi s'amuse ». Quand le roi s'amuse, ça n'est pas toujours à l'avantage de son peuple. Mais lorsque le roi n'est plus roi, qu'il est déchu avec sa famille, que dire ? Le roi s'ennuie, ses princes habitués à gouverner, à être admirés, respectés et obéis n'ont plus rien à faire et ne sont plus admirés que par quelques courtisans en exil avec eux, obéis par des domestiques qu'ils ont plus ou moins de mal à payer, respectés par personne sans doute. Ils s'ennuient et s'ennuyant, que font-ils ? Ils jouent aux cartes, comme le roi Farouk, ou font des collections, comme le duc d'Aumale. Et voilà que l'ennui du prince se fait au bénéfice du peuple, car les collections du duc d'Aumale sont maintenant à la portée de tous au musée Condé à Chantilly, à 1 heure de Paris où je me trouve aujourd'hui avec la réalisatrice de Secrets professionnels, Clotilde Pivin. Le duc d'Aumale, né en 1822 et mort en 1897, était le 5e fils de Louis-Philippe. Il a participé à la conquête de l'Algérie et était gouverneur général du pays avant de subir la loi d'exil à la chute de la monarchie de Juillet. Avant cela, 1830 avait été une très bonne année pour cet enfant de 8 ans, puisque c'est celle où son père est devenu roi, mais aussi celle où le dernier prince de Condé, son parrain, est mort en l'ayant fait son légataire universel. C'est ainsi qu'il a hérité une fortune immense, comprenant, entre bien d'autres choses, le château de Chantilly. Dans « À la recherche du temps perdu », Proust intègre à sa fiction une anecdote authentique relative au duc d'Aumale et à la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, quand il écrit de la duchesse de Guermantes, je cite « N'avait-elle pas, au cours de ces dernières années, réuni à la princesse Mathilde le duc d'Aumale, qui avait écrit au propre frère de la princesse la fameuse lettre « Dans ma famille, tous les hommes sont braves et toutes les femmes sont chastes ». Or, les princes le restant, même au moment où ils paraissent vouloir oublier qu'ils le sont, le duc d'Aumale et la princesse Mathilde s'étaient tellement plu chez madame de Guermantes qu'ils étaient ensuite allés l'un chez l'autre avec cette faculté d'oublier le passé que témoigna Louis XVIII quand il prit pour ministre Fouché qui avait voté la mort de son frère. Et à sa mort à lui, le duc d'Aumale, sans héritier direct, a légué le domaine de Chantilly et l'ensemble de sa collection à l'Institut de France, sous réserve que le musée soit ouvert au public, que la présentation soit préservée et que les collections ne puissent pas faire l'objet de prêts. C'est ainsi que si l'on veut voir une des plus anciennes, des plus belles et des plus prestigieuses collections de photographies du monde, il faut venir à Chantilly, ce que je fais aujourd'hui. Quel est le secret professionnel d'une des plus anciennes collections de photos en France, celle du duc d'Aumale ? Me reçoit pour en parler Nicole Garnier, conservateur du patrimoine et chargée du musée de Condé. Nicole Garnier, est-ce que vous voulez d'abord me dire quelques mots sur le bâtiment même, sur le château de Chantilly ?
Oui, bien sûr, le château de Chantilly a été reconstruit après 1875 par le duc d'Aumale, avec son architecte Honoré d'Aumet, afin de trouver un lieu digne pour installer ses collections. Le duc d'Aumale avait restauré le petit château 16e de Jean Bulan, construit pour Anne de Montmorency, mais il a trouvé un château en partie rasé depuis la Révolution française, et donc il n'a eu de cesse de faire reconstruire ce bâtiment pour installer ses collections, donc des murs nus en quelque sorte pour installer ses tableaux, et puis aussi des bibliothèques pour installer ses livres, car le duc d'Aumale est avant tout bibliophile.
Alors, nous sommes là pour voir sa collection de photos, et dans quel endroit sommes-nous dans le château ?
Alors, nous sommes dans ce que nous appelons les combles du logis, donc au-dessus de l'appartement qui était dédié au comte de Paris, le neveu du duc d'Aumale et l'héritier du trône, au cas où la monarchie de Juillet ou les Orléans soient remontés sur le trône. Et donc on est au-dessus des salles dédiées au prince, dans des greniers, dans des combles, qui étaient tout simplement le cabinet des estampes, comme on l'appelait au XIXe siècle. C'est là qu'étaient stockées les estampes sans grande valeur, les estampes contemporaines, les gravures de peu de prix. C'est là aussi que le duc d'Aumale stockait sa collection photographique.
Alors, je dois dire, pour ceux qui nous écoutent, que c'est deux greniers, comme chez ma grand-mère, où à peu près, il y a un papier peint à fleurettes un peu passé, un peu rougi par moments.
D'époque, bien sûr.
Et une peinture un peu défraîchie, mais ça n'est pas sans charme. Et donc, voilà des dépenses qui n'ont pas été faites et une saine économie du château.
Tout à fait, on n'a pas restauré ses réserves. En revanche, la collection photographique, que j'ai eu la chance et le plaisir de découvrir et d'inventorier en 1992, à mon arrivée ici, elle a fait l'objet de restauration et de stockage, donc dans des portefeuilles, vous voyez, tout à fait aux normes muséographiques actuelles.
Alors comment ça s'est passé, cette découverte ? Vous êtes donc là depuis 24 ans, les photos n'étaient pas inventoriées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait en découvrant les lieux ?
Alors 1992, effectivement, je suis affectée, donc mise à disposition par le ministère de la Culture, par la direction du Musée de France, au Musée Condé de Chantilly, pour prendre en charge les collections de l'Institut, la collection du Musée Condé. Et en tant que conservateur des peintures et des estampes, je fais le récollement. Donc je vais voir ce qu'il y a dans mes greniers, j'inventorie, je pointe, je coche. Et puis je trouve un certain nombre de portefeuilles en papier craft, scellés, avec des sceaux de cire rouge, sur lequel à la craie est écrit, à la craie bleue et à la craie rouge, « Donation ». Donc donation, c'est évidemment la donation du duc d'Aumale à Chantilly. Donc j'ouvre ces paquets de scellés au craft qui n'avaient pas été ouverts depuis le 19e siècle, depuis la mort du duc d'Aumale en 1897. Et le premier paquet que j'ouvre, je trouve sur la droite un tampon, un des épreuves photographiques avec un tampon rouge, Gustave Legret. Donc comme je suis une ancienne du musée d'Orsay, ça me rappelait quelques épreuves de qualité que le musée d'Orsay venait d'acquérir quelques années auparavant pour des sommes non négligeables, notamment les marines de Legret, qui sont peut-être ses œuvres les plus célèbres. Et donc, nous avions cette marine. Mais des marines d'une qualité étonnante, puisque ces épreuves photographiques n'avaient jamais vu le jour depuis le siècle dernier.
Mais ça veut dire que vous ne saviez même pas qu'elles ne faisaient pas partie d'un inventaire, elles n'étaient pas dans le testament, ça n'était pas inventorié.
Considérées comme sans valeur à l'époque, hein, très probablement, les photographies, comme les estampes du 19e, qu'on a depuis réinventoriées, qui étaient des œuvres de peu de prix, les photos, non, n'apparaissaient guère. À part quelques photos encadrées, plutôt des photos de famille, qui étaient dispersées dans les appartements du duc d'Aumale et de sa famille. Mais la plupart des épreuves en feuilles, des photos que nous jugeons aujourd'hui très intéressantes, les incunables de la photographie, les primitifs, non, n'étaient pas inventoriées. Donc on a fait cet inventaire.
Alors, cette collection de photos est exceptionnelle. Il l'a commencé quand, le prince ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'il avait un archiviste pour ces photos ?
Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur la façon dont la collection a été formée, mais on peut faire des déductions. Le prince est exilé en Angleterre à partir de 1848, donc la photo c'est 1839, et assez peu de temps après, on découvre dans la collection des épreuves qu'il montre, lui et sa famille, lors de l'exil anglais. Donc des photos qui sont réalisées manifestement au début des années 50 et bien sûr 1860. On a aussi des épreuves qui sont datées. Je pense aux marines de Legret que j'évoquais tout à l'heure. On sait qu'elles sont exposées à partir de 1856 à la devanture des libraires londoniens qui s'intéressent à la photographie en tant qu'art. C'est tout à fait nouveau. On a des épreuves d'actualité. Je pense aux photographies, par exemple, de la guerre de Crimée, du siège de Sébastopol, 1855, faite par Roger Fenton. Donc ça date précisément le début de la collection. Et puis surtout, il y a un certain nombre de photographies de grand format qui montrent des panoramas de Paris, la ville de Paris dont le duc d'Aumale est privé, puisqu'il est exilé de 48 à 71, donc à Londres, enfin, Twickenham, près de Londres. Et donc, il va acheter ces épreuves anciennes pour retrouver le charme de ces rues parisiennes et découvrir les travaux qui sont ceux d'Haussmann, puisque le Napoléon III est en train de transformer complètement la ville de Paris. Donc on a des photos du Louvre de Napoléon III avec encore des échafaudages au-dessus des toits du Louvre, avec des constructions, là, le percement par exemple de la rue de Rivoli, avec la tour Saint-Jacques, la tour du Châtelet, donc qui est toute neuve, qui vient d'être restaurée, qui vient d'être refaite à neuf. On a aussi des vues très touchantes de l'hôtel de ville, le premier hôtel de ville, celui qui a disparu au moment de l'incendie de la commune, et donc qui nous est livré grâce à ces photographies que le duc d'Aumale achète, j'imagine, en souvenir. Ou par exemple, quand il acquiert cette épreuve de Baldus qui montre le Louvre de Napoléon III, mais avec encore les Tuileries, qui n'ont pas encore brûlé, bien sûr, et puis ces prix de l'emplacement qui est aujourd'hui celui de la pyramide du Louvre. Donc on a un angle de prise de vue tout à fait étonnant depuis l'ancienne cour Napoléon. Hein,
mais pour lui, c'était une collection, d'après vous, artistique ou une collection documentaire ?
Alors, il y a les deux aspects. Dans la collection du duc d'Aumale, on a à peu près 1800 épreuves anciennes, hein, du 19e. Une grosse partie de ces épreuves sont consacrées effectivement à des reproductions d'œuvres d'art pour documenter sa collection. Le duc d'Aumale est un historien, c'est aussi un amateur d'art, un grand collectionneur, sans doute le plus grand collectionneur français du 19e siècle, et les photos vont bien sûr lui servir à documenter sa collection. Mais les photos les plus anciennement entrées dans la collection, ce sont aussi des coups de cœur. C'est une démarche artistique, ou une démarche aussi personnelle, puisque par exemple, lorsqu'on évoque la guerre de Crimée, si Aumale achète en 1855, les épreuves de Roger Fenton au siège de Sébastopol, c'est bien sûr parce qu'il y trouve l'armée qu'il a lui-même dirigée. Il y a les bataillons d'Afrique qui combattent là-bas. Donc il y a à la fois des éléments personnels, portraits familiaux, tout ceci donc apparaît dans la collection.
À propos de portraits, est-ce que vous voulez, parce que je trouve que c'est intéressant de voir qui fait les choses, à quoi il ressemblait ce duc d'Aumale ? Alors vous allez nous ouvrir un des placards où les photos sont... sont entreposés, je crois, dans des grandes boîtes, c'est ça?
Voilà, donc on a de grands placards, de grandes armoires. Voilà, on voit. Alors autrefois, les épreuves en craft étaient déposées à même les étagères. Aujourd'hui, on a des portefeuilles de conservation qui ont été financés d'ailleurs grâce au soutien de la mission pour la photographie et au ministère de la Culture. Voilà. On a beaucoup de vent aujourd'hui, donc on entend un peu du vent. Alors voilà une des plus anciennes photos que nous conservions ici. C'est un portrait du duc d'Aumale. C'est une épreuve.
Alors Nicole Garnier a mis des gants blancs, est en train d'ouvrir un dossier, de soulever un papier, une feuille en plastique.
Et une Marie-Louise, donc en carton neutre.
Voilà. Et une photo de quelle dimension à peu près?
Oh, ça fait à peu près, 12 cm par 20.
Voilà.
Et ce sont donc le portrait de deux jeunes gens. Deux jeunes gens qui sont assis, l'un califourchon appuyé sur le dos de la chaise, l'autre négligemment accoudé, sont deux frères. Donc c'est Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, notre donateur à gauche, et son jeune frère, le duc de Montpensier. Donc on est là au tout début de l'exil anglais, hein. C'est une épreuve qui a été prise donc au moment où ils rejoignent l'Angleterre, entre 48 et 50, on n'a pas de date précise, mais c'est une des plus anciennes photos qui soit conservée ici.
Donc c'est des très jeunes gens, ils ont une vingtaine d'années, comme ça.
Le duc d'Aumale a 26 ans en 48 et son frère a 2 ans de moins.
Et alors, il a 26 ans, il a les cheveux courts, il a une moustache et il a une veste, une lavalière et un pantalon blanc.
Tout à fait. Son frère a un pantalon à carreaux, assez original d'ailleurs.
Déjà l'Angleterre. Nicole Garnier, quelle est la plus ancienne photo que vous conserviez dans votre fond? C'est celle-ci?
Oh, probablement c'est celle-ci, oui. Même si la plupart de nos photos ne sont pas datées, mais celle-ci est une des plus anciennes de la collection.
Alors, vous nous parliez des collections de la guerre de Crimée et de Fenton. Est-ce que vous voudriez qu'ils font donc partie de la série, peut-être la plus, ou une des plus prestigieuses, oui, que vous avez? Est-ce que vous voulez nous
Bien
montrer
sûr.
Ça?
Alors, on a une cinquantaine d'épreuves qui montrent la guerre de Crimée. Alors, voilà un de ces grands portefeuilles de conservation. Voilà, avec donc des épreuves qui ont été montées. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, elles ne l'étaient pas. On a fait des montages de conservation.
Alors, monter, ça veut dire quoi?
Monter, ça veut dire que l'épreuve est placée dans ces grandes feuilles de carton neutre pour éviter les frottements. À l'origine, quand j'ai découvert la collection et quand je l'ai inventoriée, tout était contre-collé sur carton, comme ceci. Mais les feuilles se frottaient entre elles. Là, aujourd'hui, on a une couche de carton de quelques millimètres.
Et les colles n'ont pas abîmé les photos?
Vous n'avez pas eu de... Quelquefois, les montages sont mal conservés, c'est vrai. Mais en revanche, les épreuves, elles, sont très fraîches, puisqu'elles n'ont jamais été exposées. Vous savez que la principale source de dégradation pour une photographie de cette époque-là, c'est la poussière et c'est surtout la lumière.
Donc ça veut dire que ces photos-là que vous nous montrez et que vous sortez de carton ne sont pas montrées au public?
Comme les dessins, comme les estampes, les photographies anciennes, ou actuelles d'ailleurs, ne sont montrées que pour 3 mois à 50 lux dans des conditions de conservation bien précises. Donc à l'occasion d'expositions temporaires, oui, nous les sortons. On en a fait plusieurs, une sur la guerre de Crimée, une sur le domaine de Chantilly vu par les photographes du 19e siècle, une autre sur les chefs-d'œuvre de la photographie. Mais au-delà, non, nous ne les exposons pas en permanence. Ça serait les condamner à une mort certaine.
Alors, et est-ce que vous avez le droit d'en faire des tirages? Est-ce que vous pourriez en...
Oui, on a le droit d'en faire des tirages, bien évidemment.
Et vous l'avez fait?
On a fait des clichés numériques.
Des clichés numériques.
Des clichés numériques qui sont conservés à la Réunion des Musées Nationaux, qui est notre service de conservation des clichés, et qui exploite pour nous donc cette photothèque.
Alors, dans ces portefeuilles de conservation de carton gris-bleu, couleur ardoise, Nicole Garnier sort des photos donc, de Fenton, de la campagne de la guerre de Crimée. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ce que vous nous montrez?
Alors, volontiers. Là, ce sont 3 épreuves. Ce sont des paysages. Donc vous comprenez qu'il s'agit de feuilles qui étaient destinées à former un panorama. C'est la vallée d'Inkermann. Donc la vallée d'Inkermann, c'est le siège d'une célèbre bataille. Hein, et c'est aussi donc, un paysage assez désolé. Donc les 3 épreuves se raccordent parfaitement. Au cours des temps, et pour la vente des épreuves, Fenton a fait monter donc, ces images. Mais à l'origine, il s'agissait d'un panoramique, en quelque sorte.
C'était destiné à être montré successivement les uns après les autres.
Tout à fait, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans les publications qu'on a réalisées depuis de ces épreuves.
Et donc là, c'était le lieu de la bataille entre les troupes russes et franco-anglaises, n'est-ce pas ?
Absolument, absolument. Et turques.
Et turques.
Puisqu'en fait, l'origine du conflit, c'est la Russie qui cherche donc à s'emparer de la zone entre la Russie et la Turquie. Et donc, les alliés, les Anglais, les Français, le Piémont aussi vont soutenir le combat turc. Alors, ce lieu qui est un plateau désolé... c'est un des endroits où le photographe Roger Fenton, donc ce photographe anglais, va venir réaliser toutes ses photographies. Il en fera plus de 360 hein, en 3 mois et demi de présence à Sébastopol. Et pour aller sur le champ de bataille, il va être obligé de voyager avec une sorte de charrette, de laboratoire ambulant, on va dire, qu'il appelle le Photographic Van. Et ce Photographic Van, eh bien, il va l'écrire sur la charrette que transportent ses chevaux, parce que sinon, les troupes russes, eh bien, vont lui tirer dessus. Donc c'est extrêmement dangereux, ces photographies qui sont prises par le photographe anglais sur le terrain.
Alors, il y a aussi des photos d'êtres humains.
Alors ici, on a bien sûr les photographies des chefs croates. Ça, ce sont les premiers que Fenton va rencontrer en débarquant à Sébastopol. Ce sont les ouvriers qui sont au service des alliés et qui vont réaliser pour eux les travaux de terrassement. Donc on sait que ces chefs croates ont des problèmes ethniques entre eux, qu'ils vont combattre souvent entre eux. Il y a souvent des bagarres au couteau. Certains d'ailleurs vont être passés par les armes pour rébellion, parce qu'ils y mettent un peu la pagaille dans l'armée alliée. Donc évidemment, problème qu'on a connu jusqu'à des époques toutes récentes pour cette région de l'Europe. Ici, on trouve
une femme.
Une femme, c'est la cantinière. Je crois que c'est la seule photographie où il y a une femme dans les photos de Fenton. C'est effectivement une photo posée. La mission de Fenton, c'est un peu une mission de propagande. La reine Victoria l'envoie sur le terrain pour montrer que tout va bien à Sébastopol, même si on sait que l'armée est décimée par le choléra. Lord Raglan va en mourir d'ailleurs, ainsi que d'innombrables soldats. Les chevaux s'enfoncent jusqu'au ventre dans la boue. C'est épouvantable, les conditions de combat à Sébastopol. Mais la cantinière, comme vous le voyez, arrive toute à corte et souriante, soignée ce blessé qui n'a pas une tache de sang, qui a juste un petit bandeau sur le front, et elle va le réconforter avec un petit peu d'alcool, on imagine. Donc c'est une image complètement idéale de la guerre.
Nous allons maintenant entendre Charles Trenet dans « Qu'est devenu la Madelon ?» et c'est une chanson de 1960.
En voyant hier soir au ciné une histoire de ce temps suranné, je me disais qu'à notre âge atomique, il est triste que cette époque devienne comique. Et j'allais au hasard dans les rues, retrouvant des images disparues de mon enfance, de la jeunesse de mon père, de ma mère et aussi de la guerre. Qu'est devenu depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleue, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire « Sois sage » à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Ils sont restés fidèles comme au temps auprès d'elle, ils venaient boire à la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. Vision de ces images qui furent celles d'un bel âge et qui s'effacent. Le feu sur un toit de chaume et l'empereur Guillaume, comme le temps passe.
Nicole Garnier, vous nous parliez tout à l'heure des origines de la collection de photos du duc d'Aumale en citant à deux reprises Le Grey, qui a fourni des photos parmi les plus prestigieuses du fonds. Qui était ce Le Grey avant de nous montrer les photos?
Alors Le Grey est un peintre avant d'être un photographe. Comme la plupart d'ailleurs de ces photographes de cette génération, des primitifs de la photo, ce sont des artistes qui ne trouvent pas à se réaliser avec les moyens picturaux et qui vont se servir de ce nouveau procédé qu'est la photographie. Mais ça reste un moyen artistique. C'est un outil artistique avant tout.
Et quelles sont ses dates de ce Le Grey? Il a été actif à peu près vers quelle époque?
Il est né vers 1820, c'est un contemporain du duc d'Aumale et il meurt à la fin du siècle. Je n'ai plus ses dates précisément en tête, mais dans les années 1850 à 60, il est l'un de ses premiers artistes qui va faire émerger la photographie. C'est un élève de Delaroche, le grand peintre de la Roche, le peintre d'histoire, qui d'ailleurs a dû expertiser l'invention de la photographie offerte au monde à l'Institut de France, comme par hasard, hein, propriétaire de Chantilly. Et donc, quand de la Roche étudie la photographie, il va dire à partir d'aujourd'hui, la peinture est morte. Et donc, effectivement, des artistes comme Le Grey, comme Fenton, qui est peintre aussi au départ, comme Charles Nègre, comme Henri Le Sec, vont abandonner la peinture pour se consacrer à la photographie. Donc, la photo est vraiment un moyen d'expression artistique.
Alors, est-ce que vous voulez nous montrer une de ces célèbres marines de Le Grey? Alors, Nicole Garnier ouvre à nouveau un portefeuille.
sont des épreuves de très grande dimension. Il faut imaginer aussi que toutes ces épreuves sont faites sans agrandissement, hein, sont des planches contact, comme on disait autrefois, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des chambres qui ont ces dimensions tout à fait impressionnantes.
Et les dimensions sont à peu près de...
Alors, ça change par photographe, c'est d'ailleurs un moyen d'attribution des photos lorsqu'elles ne sont pas signées. Celle-ci fait à peu près 40 cm de hauteur par 55, je dirais, de long.
Et donc voilà une marine de Le Grès.
Alors là, c'est sans doute la marine la plus célèbre de Gustave Le Grès, c'est celle qu'on appelle Brique au clair de lune. Donc c'est une épreuve qui a été réalisée en 1856. Donc la plaque est de grande dimension, comme vous le voyez. On trouve en bas et à droite ce tampon rouge, Gustave Le Grès.
C'est un tampon, c'est pas une signature à la
main. Non, c'est un tampon qui figure sur toutes les épreuves de l'artiste. On a ici cette marine de Le Grès. On a aussi des photos documentaires, puisqu'il a été aussi photographe du musée du Louvre. On a par exemple des représentations de la Joconde. Et tout ont ce tampon.
Donc c'est un tampon en fait qui reproduit sa signature, n'est-ce pas ?
C'est le copyright en quelque sorte de l'époque.
Alors c'est une sublime photo.
C'est un paysage en fait, c'est composé comme un paysage. Ça représente donc un bord de mer, hein. On voit ici des animaux qui ramassent le varech avec des marins au premier plan, une barque échouée. Et puis il y a une barque au loin avec donc le clair de lune et puis surtout un ciel qui est peut-être le plus important dans cette prise de vue, avec des nuages. Et ce qui est intéressant, c'est que Le Grès a dû adapter la technique photographique de l'époque, parce qu'à l'époque, il faut arriver à instantanéiser ces nuages et le mouvement de la mer.
Donc, il était impossible jusque-là de photographier
On ne savait pas faire d'instantané à l'époque. Donc il va faire deux clichés différents. Il y a un cliché pour la mer et un cliché pour le ciel. Et il va superposer ces deux clichés au tirage.
Et ça, c'est une photo à peu près de 1856.
56. On sait que ces épreuves étaient en vente à Londres, et c'est là où probablement le duc d'Aumale, alors exilé là-bas et s'intéressant à toutes les formes d'art, a décidé d'en acheter donc un certain nombre. Nous en avons 7. Et surtout, ces épreuves sont très fraîches, parce que vous le voyez, elles sont d'un gris extrêmement frais, dans la mesure où ces épreuves n'ont pas été exposées, à la différence des épreuves qu'on trouve sur le commerce d'art, que conserve le musée d'Orsay ou la Bibliothèque nationale de France. Quand j'ai découvert cette collection, quand j'ai commencé à l'inventorier en 92, c'est vrai que les spécialistes étaient surpris de découvrir des épreuves aussi neuves, aussi fraîches.
Est-ce que vous voulez nous montrer une autre
Bien
de
sûr.
Ces magnifiques marines ?
Là aussi, vous voyez, on a tout un détail avec la plage,
alors,
le varech.
Alors, c'est une grande photo, n'est-ce pas ?
Oui, c'est peut-être encore un autre format, un petit peu plus grand.
Que la précédente.
Que la précédente, oui. 40-50, on va dire.
Et qui est donc une berge avec une plage.
Une plage,
une plage avec la mer
au loin.
Des varech
au premier plan, des embarcations diverses. On a aussi d'autres épreuves où on va découvrir, voici remorque au large. Là, on a deux bateaux, donc l'un qui remorque l'autre, avec un effet de vague au premier plan.
Ah oui.
Vous savez, une des plus célèbres photos de Le Grès, c'est la grande vague qui est prise à 7. Et là aussi, on a un effet dans les nuages tout à fait intéressant. Et donc, il est arrivé à bloquer la grande vague au premier plan.
Et c'était des temps de pause considérablement long.
Ça pouvait aller à l'époque de 3 à 20 secondes, selon la lumière. Donc c'était, oui, relativement long pour
photographier
pour le mouvement de la nature, absolument.
À partir de quand les photos ont-elles été encadrées et montrées comme des œuvres d'art ? Ça n'était pas le cas dans la collection du prince.
Ce n'était pas le cas dans la collection du prince, à part deux épreuves photographiques qui concernent des femmes orientales dans leur appartement. Donc des photos de genre, je dirais, posé, absolument pas réaliste, mais acquise par le prince de Joinville et offerte à son frère en souvenir des années passées en Algérie. C'était très à la mode, ces photos-là. Donc celles-ci, elles étaient évidemment encadrées, accrochées au mur, et d'ailleurs celles-ci ont subi les effets de la lumière, elles sont plus du tout présentables, elles sont très jaunies par le temps, très insolées, comme on dit dans notre jargon.
Alors pour finir notre secret professionnel, Nicole Garnier, je voudrais que vous nous montriez ce qui est pour vous la photo la plus précieuse, ce qui serait, si vous pouvez en décider, le chef-d'œuvre de la collection de photos du duc d'Aumale.
C'est difficile à dire. Le chef-d'œuvre, on en a beaucoup dans ce portefeuille. Donc, on a évoqué Le Grès. La preuve la plus célèbre, c'est sans doute Brique au clair de lune de Le Grès. Mais moi, j'ai une grande tendresse pour les magnifiques vues de Suisse, vues des Alpes, réalisées par les frères Braun.
Alors, qui étaient les frères Braun ?
Eh bien, ce sont des photographes alsaciens. Donc ils sont établis à Dornach, près de Mulhouse, et à l'origine ils travaillent pour l'impression sur tissu. Donc pour reproduire les modèles, ils vont apprendre la technique photographique, et puis très vite, ils vont eux aussi comprendre que la photographie, eh bien, c'est un moyen d'expression artistique, et donc ils vont réaliser des vues des Alpes. Alors on en a plusieurs, c'est devenu un genre photographique très à la mode dans les années 1860-1870, et donc les amateurs collectionnaient ces vues de montagne absolument extraordinaires. Ce sont des épreuves très grandes, hein. On n'est pas loin du 50-60, c'est de la petite affichette déjà comme format, et c'est le procédé inaltérable au charbon. C'est un procédé que vont mettre au point les Braun, et donc ce procédé permet d'avoir des noirs franchement noirs.
Qu'est-ce que ça veut dire, procédé au charbon ?
Au charbon, c'est une technique, je ne vous expliquerai pas la chimie de la photo. Il faut savoir qu'à l'époque, chaque photographe a sa recette pour réaliser les photos, pour les tirer. Et donc ce procédé qui est mis au point par les Braun, qui je suppose était même relativement secret à l'époque, permet d'avoir des épreuves qui supportent l'exposition à la lumière, plus ou moins bien, et surtout d'avoir des contrastes très forts. Ce qu'on l'a vu, hein, Le Grès n'arrivait pas à faire. On est au contraire dans des tons beaucoup plus pastels. Là, on a des noirs franchement profonds et des blancs donc extraordinaires, notamment sur les vues de glaciers. Ici, on voit ce glacier qui descend la montagne, tout à fait impressionnante. Alors, je ne sais pas laquelle des trois vues des Alpes que nous avons ici est la plus belle. Celle-ci est assez extraordinaire. Donc, elle représente le Mont Rose. Elle est intitulée Vue Suisse. Et on en a peut-être une encore supérieure en qualité. Alors regardez cette dimension, hein. Imaginez les chambres avec lesquelles les photographes se déplaçaient dans la montagne. Hein. 50-60, c'est la dimension de la chambre photographique. Donc après, vous avez le pied, vous avez les soufflets, enfin, c'était un matériel tout à fait considérable. Et là, on a donc une vue du lac Noir à Zermatt et à l'arrière-plan, le Gabelhorn. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a donc un lac glacé au premier plan, avec une petite maison couverte de lauzes, hein, de pierres. Et puis on a trois alpinistes. Trois alpinistes à flanc de coteau, donc c'est tout à fait incroyable, avec sur le flanc de la montagne, donc le nuage qui s'attarde, et puis on voit juste le sommet qui dépasse. Vous voyez la qualité, la définition, le piqué, comme on dirait en photographie encore actuelle, de ces épreuves, qui sont tirées uniquement par contact.
Et celle-ci date de quand ? Elle est datée ?
Alors c'est plutôt les années 60-70. Je n'ai pas la date précise de cette épreuve-là, parce qu'après les prises de vue, les Braun ont diffusé ces épreuves, et donc il y a eu plusieurs éditions. Ah.
Et est-ce qu'il vous est arrivé, ça sera ma dernière question, d'avoir à restaurer des photos de votre fonds ?
Oui, bien sûr, certaines d'entre elles. Déjà, en restauration, il y a deux types d'interventions. On peut faire de la conservation préventive, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on a fait ici, vous voyez, monter les épreuves, éviter donc les frottements en plaçant des cartons d'une certaine épaisseur, en les intégrant dans des portefeuilles étanches avec du carton non acide, du carton neutre, donc qui permettent de protéger indéfiniment les œuvres, mais ça va être aussi des actions de restauration. En particulier, on l'a fait sur une grande vue du port d'Alger, un grand panoramique que le duc d'Aumale avait acheté pour des raisons évidemment personnelles, puisqu'il a vécu près de 8 ans en Algérie avant la révolution de 48. Et cette photo était atteinte par des moisissures parce qu'elle avait été mal conservée dans les greniers du château avant qu'il y ait le chauffage. Et donc on a dû effectivement faire traiter ces photographies. Ça a été fait d'ailleurs avec l'aide d'Anne Cartier-Bresson et de l'atelier à l'époque de l'IFROI, l'Institut français de restauration d'œuvres d'art, aujourd'hui l'Institut national du patrimoine.
C'est vraiment un lieu secret où nous sommes, puisque ces photos ne sont pas montrées. Merci de nous les avoir montrées. Mais est-ce que ceux qui veulent les voir peuvent prendre rendez-vous avec vous pour comment est-ce qu'on fait pour montrer au public ces photos ?
Alors, ces photos ont été présentées à l'occasion d'expositions temporaires, le seront également. Et de toute façon, les chercheurs, les spécialistes peuvent prendre rendez-vous avec nous, par mail par exemple, et on les reçoit en salle de lecture au rez-de-chaussée du château où on leur communique les épreuves. Et puis pour les amateurs qui voudraient voir ces épreuves, il y a moyen aussi d'y accéder par internet, bien sûr, car toute notre collection est disponible sur la base Joconde du ministère de la Culture. Donc sur Google, tapez base Joconde, vous arrivez directement sur le site, localisation Chantilly, domaine photographie. On peut aussi le trouver sur le site muséecondé.com.
C'était Secret professionnel 209e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des odeurs. Réalisation Clotilde Pivin. Attaché d'émission Daphné Abgrin. Prise de son François Rivalan. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.